Vous venez de vivre une semaine, je crois, bien remplie autour d'un thème art et religion, du thème art et religion, un duo d'enfer. Il ne m'a pas été possible de participer à vos rencontres et je me suis longuement demandé comment j'allais ce matin aborder un tel sujet avec vous. N'étant spécialiste ni en peinture, ni en musique, qui sont certainement les arts majeurs de la religion chrétienne, je me suis donné toute liberté pour relire avec vous une grande page de l'art littéraire de l'apôtre Paul. Paul, un artiste, voilà qui pourrait nous étonner. Et pourtant, il est, je pense, dans son ministère de missionnaire et de bâtisseur d'église, un artiste hors pair. Et nous avons, je crois, encore de quoi admirer son œuvre 2000 ans plus tard. Voilà qu'il nous parle de l'amour. Et son discours percutant pour ses contemporains l'est encore pour nous aujourd'hui. Mais entrons plus avant dans ce récit, dans son contexte, dans son message. Je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien, dit l'apôtre Paul. C'est pour les Corinthiens que surgit, dans cette première épître aux Corinthiens, cet hymne à l'amour. Pour les paroissiens de la petite ville de Corinthe, un texte emblématique qui fait partie probablement des 8 ou 10 textes les plus remarquables de la littérature biblique. Un texte aussi de circonstance que l'apôtre Paul adresse à une toute jeune communauté, l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était une église vivante, dit-on, grouillante, dynamique, mais au point d'être divisée, désordonnée, enflée d'orgueil dans ses factions et dans ses groupuscules. Les forts avaient tendance à écraser les faibles dans tous les domaines, sur le plan de la piété et du culte. Ceux qui étaient exaltés, ceux qui savaient parler en langue, par exemple, dans leurs prières, méprisaient les autres, les plus calmes, ceux qui étaient, dirons-nous, moins démonstratifs dans la foi. Mais aussi sur le plan social, les riches s'empiffraient et s'enivraient au moment des agapes et de la Sainte Cène, comme s'ils voulaient faire honte aux autres. Ce qui fera dire à Paul, méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire affront à ceux qui n'ont rien ? Il faut dire qu'à l'époque de l'apôtre Paul, Corinthe est une ville immense, qui n'a rien à voir avec la petite ville d'aujourd'hui. Au premier siècle, Corinthe connaît encore une très grande prospérité, grâce à ses 2 ports. Le commerce y est florissant. On avance le chiffre de 200 000 habitants, ce qui est tout à fait considérable pour une ville de l'Antiquité. La ville compte aussi de très nombreux temples grecs, dont le plus célèbre est celui voué à Aphrodite, la voluptueuse, déesse de l'amour. On disait ce temple desservi par au moins 1000 prostituées sacrées. Mais d'après les historiens sérieux, c'est un chiffre aussi méridional qu'invérifiable. Mais il n'en reste pas moins que le grand nombre de ces dames effraya même le grand historien grec Hérodote. La réputation de la ville, comme bien des grands ports, était si sulfureuse qu'elle donna naissance à une expression peu flatteuse dans le registre de la morale, vivre à la corinthienne. C'était s'autoriser tous les excès, vous l'imaginez. Pour compléter ce tableau sur la mégalomanie de cette grande métropole, il faut encore évoquer les Jeux ismiques de Corinthe qui avaient lieu tous les 2 ans et qui rivalisaient de manière tout à fait notoire avec les Jeux olympiques d'Olympie, sa voisine, à 100 de kilomètres de là. Comme on dit à Marseille, les Corinthiens ne se prenaient pas pour de petites figues. Dans tous les domaines, Corinthe cultivait le culte de la performance. D'après l'exégète Alphonse Maillot, auteur d'un ouvrage sur l'hymne à la charité de l'apôtre Paul, en devenant chrétien, les Corinthiens ne manquèrent pas de vouloir adapter leur culte de la performance et du record à l'Église et à la vie chrétienne. Issu de cette grande ville tout à fait remarquable, il ne pouvait pas manquer de devenir, pensait-il, des chrétiens exceptionnels, des hyper-chrétiens, dit Alphonse Maillot, dans une église de rêve. Tant et si bien que ces hyper-chrétiens en vinrent vite à se moquer de l'apôtre Paul, qui pourtant leur avait apporté l'évangile, mais qui n'avait rien, lui, d'un recordman spirituel. En effet, Paul, de fait, n'était hyper en rien, ni en théologie, lui qui dira « Pour vous annoncer la vérité de Dieu, je n'ai pas employé un langage compliqué, ni des connaissances impressionnantes. » Ni en hardiesse, lui qui dira « C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. » Ni en apostolicité, lui qui dira « Je suis le moindre des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. » Ni même en santé, lui qui dira « Il m'a été imposé dans mon corps de très dures souffrances. » L'apôtre Paul n'était hyper que dans la faiblesse et la tribulation, lui qui a dit encore « C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que je subis pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il y en a qui l'ont soufflé. Aux yeux des Corinthiens, il semble bien que Paul n'était qu'un sous-apôtre, voire un sous-chrétien, car pour les Corinthiens, très attachés à leur culture du record et du dépassement de soi, le christianisme qu'ils découvraient devait forcément leur offrir les moyens de se dépasser et d'aller toujours plus loin en s'ouvrant à toutes les expériences de la mystique et de l'extase. Le christianisme, pensait-il, devait aussi leur permettre de devenir plus intelligents au point de percer tous les mystères célestes et de parler même, dit-il, la langue des anges. Évidemment, Paul ne peut s'empêcher de voir dans ces Corinthiens maximalistes des enflés de la foi. Nos traductions parlent de l'orgueil des Corinthiens, mais le texte grec les décrit comme des enflés, littéralement des gonflés, des boulimiques de connaissances. Oui, les Corinthiens étaient tout à fait excessifs, les uns devenant, après leur conversion, des hyper-dévergondés en continuant de plus belle leur joyeux sacrifice à Aphrodite, il en parle au chapitre 6, vous pourrez retrouver tout cela, tandis que d'autres devenaient au contraire des hyper-ascètes en refusant tout contact avec les femmes et même avec leurs femmes, c'est ce dont il parle au début du chapitre 7. Fort de ce contexte, on comprend mieux que dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul se soit fatigué de se mesurer à ses recordmen spirituels, à ses alpinismes du sublime et du religieux, à ses héros de la foi. Et c'est pourquoi il finit par leur dire à la fin du chapitre 12, « Vous voulez rivaliser pour les meilleurs charismes? Eh bien, suivez-moi. Je vais vous en montrer le chemin par excellence. » Et c'est ainsi que commence le chapitre 13, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, mes discours ne sont rien de plus qu'un tambour bruyant ou qu'une cymbale qui résonne. » Si Paul parle ici avec une telle force de l'amour, c'est parce qu'il estime que les Corinthiens ont besoin d'être sérieusement interpellés et évangélisés dans ce domaine de l'amour qui semble leur faire tant défaut. Et ces versets font allusion à l'amour comme étant le critère absolu de toute piété, de toute vérité, de tout engagement diaconal. Dans bien des domaines spirituels, semble dire Paul, vous brillez beaucoup, mais vous manquez peut-être d'amour. Et voilà que tout cela peut devenir fade et inutile s'il n'y a pas l'amour au centre de votre vie. Et faut-il le rappeler, l'amour dont parle Paul n'est pas quelque chose de mièvre et d'insipide ou de sucré, mais au contraire l'amour est la révolution et la subversion absolue dans sa pensée. L'amour dont parle Paul ici, c'est ce qui fonde la liberté nouvelle et qui va jusqu'au bout de toutes les libertés possibles. Qui ne s'épuise pas, qui ne baisse pas les bras devant les prétentions totalitaires, qu'elles soient religieuses, intellectuelles, morales ou politiques. Il est intéressant de noter aussi qu'au début du chapitre 13, l'amour est évoqué avec un certain humour et avec des accents même un peu polémiques. Je pourrais avoir le don de transmettre les messages de Dieu. Je pourrais posséder toutes les connaissances, connaître tous les mystères, parler la langue des anges. Je pourrais faire tout cela magnifiquement. Mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Ainsi l'apôtre Paul entend tout d'abord mettre un peu de distance entre ce que peut devenir la prétention des Corinthiens et la réalité des choses. En d'autres termes, il affirme qu'un fossé de non-sens peut se creuser au cœur même de nos connaissances et de notre foi si l'amour n'est pas là, si l'amour n'existe pas. Puis un peu plus loin, l'amour se fait plus précis et devient cette fois-ci tendresse et pardon. L'amour est patient, dit-il, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne médite pas le mal, il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Bien sûr, tout ce qui est dit de l'amour ici se rapporte à l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. C'est ainsi que Dieu nous aime, veut dire Paul. C'est de lui que nous apprenons un tel amour. C'est lui qui en est la source. C'est par lui et en lui que l'amour pourra se frayer un chemin en nous et autour de nous. C'est pourquoi on ne pourra lire et écouter cet hymne à l'amour que comme une louange à Dieu en vue d'une conversion radicale dans notre manière d'appréhender le monde et dans nos rapports les uns avec les autres. Tandis que nous écoutons ces mots et que nous lisons cet hymne, nous comprenons que quelque chose doit changer concrètement en nous. Et si c'était vrai que l'amour puisse nous faire grandir de la sorte, telle est la question que vient suggérer cet hymne à l'amour. L'amour comme espérance de vie, l'amour surtout qui prend patience, comme la longue et vraie patience de Dieu à notre égard. Une invitation aussi à toujours savoir prendre patience devant tout ce qui nous fait mal, ce qui nous choque, ce qui nous fait perdre patience pour laisser l'amour s'immiscer au sein de nos tiraillements intérieurs comme au sein quelquefois de notre suffisance. L'amour est pour l'apôtre ce petit quelque chose, ou plutôt ce grand quelque chose, qui s'il nous fait défaut réduit à néant toutes les aspirations de notre foi. Quelques mots encore sur la conclusion de Paul. Maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Certainement, avons-nous trop tendance, en expliquant cet hymne à l'amour de 1 Corinthiens 13, à oublier que c'est dans des circonstances précises, à une paroisse précise et à des paroissiens ô combien particuliers, qu'il était adressé, cet hymne. Or, à ces paroissiens avides de hauteur spirituelle et d'expérience exaltante, Paul a rappelé avec cet hymne que la religion chrétienne se vit plus souvent dans les plaines et dans les vallées embrumées du quotidien que dans les hauteurs de l'exaltation. Et ce qui demeure dans la foi, ce n'est pas forcément les moments les plus fulgurants, les prédications les plus efficaces, les célébrations les plus exaltées, mais ce sont les gestes simples de l'amour en acte. Les humbles moments de la foi simple et bégayante où l'on croit malgré les doutes, les humbles moments d'espérance où, malgré l'absurdité de la vie, nous ne perdons pas courage, et enfin et surtout les humbles moments d'amour tels que Paul les a décrits dans ce passage et qui peuvent se vivre au quotidien dans les gestes les plus simples de la vie. Malgré les apparences, Paul ne donne jamais une allure héroïque à l'amour, mais c'est, dit-il, un charisme, c'est-à-dire un don qui trop souvent vient s'opposer à notre nature. Mais à n'en pas douter, il nous invite à accueillir ce don de l'amour pour donner plus de sens à notre vie et plus de bonheur aussi. Son art littéraire traverse les siècles et si les auditoires changent, sa force de conviction ne cesse de nous émerveiller. Parler de l'amour et mieux encore vivre de cet amour, un art à promouvoir dans nos églises comme dans nos foyers si nous voulons conserver toute crédibilité au message de l'Évangile. Amen.